Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Et merci d'être encore plus nombreux à nous être fidèles tous les dimanches. Vous faites de cette émission le premier rendez-vous politique du week-end et de loin. Cela nous oblige. Je vous remercie encore du fond du cœur. En direct avec nous jusqu'à 13h, l'une des figures majeures de l'opposition. Il critique sévèrement les conditions du confinement, plus largement la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif. Qu'attend-il de l'allocution présidentielle de mardi prochain, de ce qu'on présente aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, en tout cas, comme un assouplissement du confinement dans les semaines à venir. Et puis, séparatisme, laïcité, nous l'interrogerons également sur le projet de loi pour renforcer les principes républicains. Et enfin, la campagne présidentielle a déjà commencé. Sur quel thème pense-t-il qu'elle se jouera à cette élection de 2022 ? Le vice-président du Rassemblement National, l'eurodéputé Jordan Bardella, est notre invité aujourd'hui pour intervenir. Le hashtag Question Paul ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique. Ali Badou.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'être avec nous ce dimanche pour vous interroger l'équipe de questions politiques. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Solène de Royer du journal Le Monde. Bonjour Solène.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécart de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine Bécart qui a préparé votre portrait Jordan Bardella et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. On va commencer par les assouplissements du confinement. C'est l'expression d'usage, c'est non pas un déconfinement mais plusieurs étapes que présente le porte-parole du gouvernement ce matin dans le JDD, et ça correspond au fond plutôt à ce que vous exigiez, à ce que vous demandiez à l'exécutif, à savoir la possibilité pour les commerces, les petits commerces, selon l'expression consacrée, de rouvrir, notamment autour du 1er décembre, la possibilité d'avoir une perspective, notamment de pouvoir célébrer les fêtes de Noël dans quelques semaines. Finalement, vous pensez que si les choses se passent comme elles sont annoncées aujourd'hui par Gabriel Attal, vous pourriez vous retrouver dans cette nouvelle stratégie sanitaire de l'exécutif?
Encore une fois, ça me semble être du bon sens. C'est-à-dire que les Français ont un peu le sentiment d'un confinement extrêmement dur. Je rappelle que on nous dit souvent c'est partout pareil. C'est faux d'abord. Le confinement qui a été appliqué en France est l'un des confinements les plus drastiques qui a été appliqué en Europe. C'est vrai que l'intégralité du continent a été touchée par la reprise de la pandémie, par cette seconde vague. Maintenant, les autres pays ont des résultats qui sont quand même assez meilleurs. Moi, j'ai regardé les chiffres. En France, nous avons 44 000 morts pour une population de 68 millions d'habitants, 12 500 morts pour 80 millions d'habitants en Allemagne. Et par rapport à la population, il y a eu 3 fois moins de morts en Autriche, 4 fois moins de morts en Slovaquie, 40 fois moins de morts si on va plus loin en Corée du Sud. Donc, ailleurs, l'épidémie a été mieux gérée. Je crois qu'il y a eu un défaut d'anticipation majeur pendant cette crise. Je note, et vous avez peut-être raison de le rappeler, que beaucoup de mesures qui ont été prises finalement assez tard ont été exprimées, demandées, réclamées très tôt par Marine Le Pen et par le Rassemblement National.
C'est contestable. Donc,
effectivement, lorsqu'on voit que le manque à gagner des petits commerces est de 4 milliards d'euros sur le mois de novembre, qui peut aller jusqu'à 11 milliards d'euros au mois de décembre si on poursuit ce confinement drastique, effectivement, qu'au-delà des conséquences économiques, il va y avoir des conséquences sociales. Et on le voit bien maintenant, il y a un état de déprime générale, que ce soit chez les jeunes, chez les personnes âgées qui sont en EHPAD. Un Français sur 5 est aujourd'hui en état dépressif d'après Santé publique France. Donc il faut de grâce faire preuve de souplesse, faire preuve de bon sens. Et encore une fois, il n'y a pas de raison qu'on puisse se ruer à la caisse dans les supermarchés. Moi, je suis allé faire mes courses hier dans un hypermarché. C'est blindé, voilà, c'est blindé. Vous êtes blindé dans les rayons, c'est blindé à la caisse. Et à côté de ça, quand des petits commerçants voient qu'on leur ferme leur commerce pour des raisons qui sont assez hasardeuses, assez bureaucratiques, eh bien oui, je suis content qu'on fasse enfin preuve de bon sens et de souplesse et qu'on permette une reprise, prudence, mais reprise.
Alors, n'allez pas plus vite que la musique. Beaucoup de questions à vous poser et la situation est extrêmement complexe. Nathalie Saint-Cricq.
Vous avez salué donc la rouverture probable des petits commerces pour probablement le 28. Est-ce que vous trouvez que concernant les restaurants, les bars, les salles de sport, qui sont d'après une étude américaine les lieux les plus contaminants, eh bien il y a trop de frilosité de la part du gouvernement parce que manifestement, on est plutôt sur janvier pour la possibilité de rouvrir.
Je pense que les Français, et même nos restaurateurs d'ailleurs, sont prêts à tous les efforts de résilience. Ils l'ont montré ces derniers mois, en dépit parfois d'injonctions contradictoires qu'on leur a données sur les masques, les tests. Les restaurateurs, on leur a dit, vous serez exonérés de charges au premier confinement. Finalement, c'était simplement un report. Donc, il faut simplement leur donner une date, leur donner un horizon. Moi, j'ai assisté à la réunion des chefs de parti avec Matignon, avec le Premier ministre avant-hier soir. je lui dis, il faut donner au moins un horizon,
mais
un cas pour restaurateurs. D'après l'Union, moi j'ai vu une étude qui a été faite par l'Union des métiers de l'hôtellerie qui nous dit, si on va jusque aux informations qu'on a, c'est-à-dire une fermeture jusqu'au mois de février, 65% des établissements de restauration pourraient ne pas rouvrir, pourraient ne pas survivre. Donc il faut au moins leur donner une date, au moins leur donner
mais
un horizon.
Maintenant qu'on sait que... Vous avez pu échanger, dialoguer avec Jean Castex?
Pardon?
Vous avez pu échanger, dialoguer, avoir une vraie discussion de fond
avec
Jean Castex?
Non, parce que si vous voulez, moi on a le sentiment d'une gestion un peu au doigt mouillé. C'est la gestion au doigt mouillé, c'est-à-dire que le matin, vous avez un ministre qui vous explique que peut-être les commerces vont rouvrir le 27 novembre. Ensuite, vous avez le porte-parole du gouvernement, Monsieur Attal, qui nous dit « il n'est pas question de parler de déconfinement ». Ensuite, carrément, Monsieur Castex nous dit, Premier ministre nous dit « bon, finalement, il n'y a plus de date au 1er décembre ». Donc, pour l'instant, c'est sorti avec attestation. Et si vous voulez, cette infantilisation permanente des Français, elle n'est plus supportable. Vous parliez des informations qui nous sont communiquées dans le JDD. On nous parle d'un protocole sanitaire pour la réouverture des petits commerces à 8 mètres carrés par personne. Mais c'est du délire. Mettez-vous à la place d'un coiffeur. Alors, vous êtes coiffeur. Donc, vous faites une couleur à quelqu'un, vous en avez entre 30 et 45 minutes. Sauf que pendant que vous faites sa couleur, vous la laissez poser. La personne, vous la laissez sur le côté. Et vous coiffez d'autres personnes. Or, avec ce protocole absurde de 8 mètres carrés, ce n'est pas possible. C'est des décisions absurdes dont je me demande comment. Enfin, elles sont prises en dépit du bon sens.
Alors,
et les Français se disent, comment on va appliquer ce type de mesures? Et les forces de l'ordre à qui on demande d'aller dans les supermarchés. Pardon, mais j'ai vu dans les Vosges, il y a quelques jours, on demande aux policiers d'aller dans les supermarchés pour vérifier que les gens qui font leurs courses ont bien coché première nécessité sur l'attestation. Maintenant, on va leur demander d'entrer dans les magasins avec des calculettes et des mètres pour vérifier qu'il y a bien 8 mètres carrés par personne. Enfin, c'est du délire. Voilà. Je trouve ça délirant. Donc, faisons preuve de souplesse, de bon sens. Il faut rouvrir les petits commerces. Ils sont déjà habitués à respecter un protocole sanitaire qui est strict. Et je ne crois pas qu'en allant acheter une paire de chaussures, vous participiez à la diffusion de l'épidémie. Pardon.
Non, est-ce que vous direz que l'opposition a été suffisamment associée à la gestion de cette crise? Apparemment, Jean Castex vous a proposé de mettre en place un comité de liaison avec les groupes parlementaires. Ça va plutôt dans le bon sens,
Non, puisque un intergroupe parlementaire avec les présidents des groupes parlementaires. Or, compte tenu du mode de scrutin aujourd'hui qui est absolument antidémocratique, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, le Rassemblement National n'a pas de groupe à l'Assemblée Nationale. Donc, pour l'instant, et théoriquement, nous en sommes exclus. Je lui ai posé la question avant-hier. Il ne m'a pas répondu. Mais bien sûr que non, on n'est pas associé. On a fait des dizaines, mais tous les partis d'ailleurs. Je sors du Rassemblement National, mais tous les partis ont fait des dizaines et des dizaines de mesures qui n'ont pas été prises en compte et qui me semblaient être des mesures de bon sens. On a un peu méprisé l'opposition. Souvenez-vous, ça va bientôt faire un an que cette épidémie a commencé. Il y a un an, au mois de janvier l'année dernière, on a dit, il y a une épidémie majeur qui commence à se diffuser partout, notamment en Asie. Si la Chine prend des mesures aussi drastiques que le confinement d'une région comme Wuhan, c'est bien que l'épidémie va finir par arriver en Europe et que la première des mesures de bon sens aurait été de fermer les frontières avec des pays qui étaient des pays foyers de l'épidémie. Je réécris pas l'histoire.
Marine Le Pen, au mois de février dernier, s'opposait justement aux mesures que prenait l'Italie en matière de confinement. Elle disait que nous n'étions pas dans la même situation et qu'il ne fallait pas aller plus vite que la musique.
Parce que nous n'étions pas encore dans la même situation que l'Italie. En revanche, a-t-elle oui ou non demandé la fermeture des frontières avec des pays où se diffusait l'épidémie? Elle l'a fait au mois de janvier, au mois de février à l'Assemblée nationale, tout ça est public. Elle a dit, mais quid de nos stocks de masques, de tests, de médicaments, à l'heure où on nous expliquait que porter un masque était quasiment plus dangereux que de se confronter directement au virus. Donc, effectivement, nous avions dit beaucoup de choses avant tout le monde. Je vous rappelle que pendant le premier confinement, on avait notamment proposé que soient testés les gens qui continuent de travailler. On n'a pas voulu le faire. Eh bien, évidemment, le virus a continué de se diffuser. L'Autriche, là, la Slovaquie, pardon, en un week-end, a testé 2/3 de sa population. On n'est pas capable d'en faire le quart en France.
Alors, on n'est pas 5 millions, on est 67 millions. Mais c'est intéressant, vous critiquez à tout va. On connaît ce discours-là.
Et je propose, sûr.
Moi, j'aimerais vous entendre sur ça. C'est-à-dire, à quoi doit ressembler la vie des Français à partir du 1er décembre prochain? Si le Rassemblement National était aujourd'hui en train de gérer cette crise, vous proposeriez quoi, mardi, à la place d'Emmanuel Macron?
Déjà, la réouverture des petits commerces. La réouverture des petits commerces, des commerces de proximité.
Mais ça, c'est en cours. Ça, c'est acté. Ce sera la semaine prochaine.
C'est acté, je sais pas. Enfin, vous l'avez entendu que c'était acté. Je sais pas. Moi, j'entends si vous voulez le matin un ministre me dire quelque chose et le soir un autre ministre nous dit le contraire.
Pas tous en même temps. Donc, je vais citer Gabriel Attal que nos auditeurs et nos téléspectateurs se fassent une idée à la question les commerces rouvriront-ils avant le 1er décembre? Le porte-parole du gouvernement répond ce matin. Je le cite. Nous nous étions engagés à leur permettre de rouvrir autour du 1er décembre si l'amélioration de la situation sanitaire se confirmait, ce qui semble être le cas.
Voilà. Très bien.
Mais alors, et ensuite, à partir du 1er décembre, donc, à quoi doit ressembler la vie des Français?
Il faut sortir de l'infantilisation permanente des Français. Si vous voulez, l'attestation en soi, qui consiste à être contrôlé lorsque vous allez faire vos courses, on vérifie que vous avez bien acheté un produit de première nécessité, je trouve ça, moi, délirant. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut faire du cas par cas. Lorsque vous êtes, je regardais le tweet d'une de vos confrères qui fait ses courses chez Monoprix et qui cherche des chaussettes et à qui on met une pancarte devant le rayon chaussettes avec marqué interdiction d'acheter des chaussettes parce que c'est pas un produit essentiel. Je trouve ça délirant. Donc, il faut sortir de cette absurdité totalitaire.
Mais c'était pour protéger les petits commerces.
Cette absurdité totalitaire, pour reprendre les mots de vos confrères, de Die Zeit, qui est un grand quotidien allemand, qu'on peut pas d'ailleurs suspecter de proximité avec la droite, plutôt avec la gauche d'ailleurs, et qui a fait un jugement, mais hallucinant de la manière dont est gérée l'épidémie en France. Eux ont bien géré.
Donc,
le confinement peut être décrété, mais de manière localisée. Il y a des régions dans lesquelles, aujourd'hui, le virus circule peu ou moins, en moindre mesure. Il faut pouvoir lever le confinement, et surtout, faut aller vers des rouvertures progressives. On va pas faire tous les deux mois confinement, reconfinement. Et surtout, gouverner, c'est prévoir. Au mois de juillet, le chef de l'État nous a dit, s'il y a une seconde vague, nous serons prêts. Le ministre de la Santé nous a dit, il y a aujourd'hui 5 700 lits, il y en aura 10 000 en cas de seconde vague. Il n'y a pas 10 000. On a commencé la seconde vague avec 5 700 lits. Donc, augmentons nos capacités hospitalières, créons des places dans les hôpitaux. Je vous rappelle qu'en Italie, ils ont embauché 20 000 médecins et infirmiers. Ça n'empêche pas de ne pas avoir de nouvelles vagues, mais ça permet de mieux gérer, ça permet d'avoir des capacités hospitalières qui soient bien meilleures, et surtout, faisons preuve d'un peu de bon sens. Je veux dire, faisons confiance aux Français, les commerçants, lorsqu'ils mettent en place des plexiglas comme on en a ici sur le plateau, lorsqu'ils mettent en place du gel hydroalcoolique, ça fonctionne, ce n'est pas là que se diffuse le virus, en tout cas c'est ma conviction.
Solène de Royer, puis Nathalie Saint-Cricq.
Vous diriez que le premier déconfinement a été trop brutal, trop rapide en mai dernier?
En fait, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de stratégie, c'est-à-dire qu'on change à peu près tous les 15 jours. Le 1er septembre, Emmanuel Macron, le chef de l'État, nous dit donc maintenant, priorité à la relance économique, on met de côté le sanitaire. 15 jours après, on ferme des restaurants à Marseille. 15 jours après, Monsieur Lemoine, qui est secrétaire d'État en charge, je crois, du tourisme, nous dit, c'est bon, partez en vacances pour la Toussaint. Et 15 jours après, on reconfine. Donc, à un moment donné, il va falloir un plan clair. Il faut mettre en place un plan pandémique de la même manière qu'il existe un plan pandémique de 70 pages pour la grippe. Enfin, je veux dire, il y a un plan pandémique qui existe pour la grippe. Lorsqu'on atteint des statistiques, lorsqu'on atteint tel et tel taux, ça déclenche un certain nombre de choses derrière. Il faut faire la même chose avec le Covid, ce qu'on n'a pas été en mesure de faire et ce que d'autres pays en Europe ont fait avec des résultats qui sont bien meilleurs.
Mais quand on voit l'état psychologique dans lequel est aujourd'hui, la plupart des Français, est-ce qu'il n'était pas nécessaire au mois de juillet de détendre effectivement, sans doute un peu trop, d'ailleurs c'est ce que reconnaît aujourd'hui Jean Castex, le Premier ministre, de détendre effectivement toutes ces contraintes au lieu de dire ce que vous êtes en train de dire?
Si, mais encore une fois, les mesures, on les avait réclamées très très tôt. On avait réclamé pendant le confinement, pendant le premier confinement, donc avant le déconfinement, que soient testés tous les Français qui travaillent. Parce que quand vous avez 40% de la population, entre 40 et 50% de la population qui continuait à se rendre sur son lieu de travail, évidemment que le virus continuait à circuler. Donc il fallait évidemment mettre en place cette mesure, et puis il fallait contrôler nos frontières, parce que
vous étiez fait tester?
Dans la plupart. Non, je me suis pas fait tester parce que j'ai pas eu de symptômes.
Mais vous continuez à travailler.
Aujourd'hui?
Non, vous continuiez à travailler sans même avoir été testé.
Bien sûr, sauf qu'en réalité, la plupart des entreprises et des collectivités sont adaptées. Le Parlement, par exemple, a continué à tenir des sessions à distance. Donc, la plupart des entreprises, en réalité, se sont adaptées. Mais il fallait contrôler nos frontières. La plupart des cas qu'on a vu réapparaître dans tous les pays européens étaient des cas qui étaient importés. Donc, il fallait mettre en place des tests aux frontières. On avait réclamé la mise en place d'un passeport sanitaire.
Jordan Bardella.
Vous n'avez pas montré l'exemple, en fait. C'est ça que dire Ali Badou. Vous dites, si on va travailler, il aurait fallu se faire tester. Je sais pas, si effectivement il faut aller se faire tester quand on va travailler, vous auriez pu effectivement montrer l'exemple et aller vous faire tester, c'était possible.
Mais moi j'étais confiné, j'étais confiné.
Au mois de juillet, on n'était plus confiné.
Oui, mais pendant le premier confinement, j'étais aussi confiné, donc je pense que c'est pas à moi de montrer l'exemple aux Français, en tout cas au gouvernement. Mais moi, si vous voulez, première partie du premier confinement, j'étais donc confiné. Il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai eu des symptômes, donc je suis immédiatement allé me faire tester. Mais voyez, on m'a dit, vous allez être recontacté par l'assurance maladie dans le cadre de la stratégie d'isolement de test. Personne ne m'a contacté. Donc voilà, là, une faille majeure dans cette gestion qui n'accompagne pas d'ailleurs uniquement au gouvernement, à la manière dont les ARS sont gérées, dont la bureaucratie aujourd'hui a pris le pouvoir. Et en réalité, c'est vrai que cette technocratie à outrance qui s'est imposée dans le confinement fait qu'on a des mesures qui sont complètement délirantes, où en fait, un rayon sur deux dans les qu'est-ce qui fait que vous pouvez aller vous acheter une bouteille de vin chez Nicolas, mais que vous puissiez pas aller vous acheter un livre dans une librairie? Enfin, pour moi, la culture, la librairie, ça fait partie de la santé aussi mentale des Français.
Nathalie Saint-Cricq.
Parlons un petit peu d'avenir. Vous avez dit tout à l'heure faire confiance aux Français. Or, on voit que seuls 4 sur 10 ou 40% des Français accepteraient de se faire vacciner quand on aura le vaccin. Ils sont encore plus nombreux dans votre électorat. Comment est-ce que vous expliquez cette défiance et est-ce que c'est cohérent par rapport à une stratégie face à une pandémie ?
Jordan Bardella.
Parce que rien n'a été fait, il faut dire les choses.
Et donneriez-vous l'exemple
et vous
comme Marine Le Pen qui dit je vais me faire vacciner.
Journaliste, vous devriez le savoir mieux que moi. Rien n'a été fait depuis le début de cette épidémie.
C'est la raison pour laquelle quand vous dites rien n'a été fait, on peut se dire il va un peu loin.
Mais laissez-moi
on peut
terminer
ne pas être d'accord
phrase.
Avec vous.
Laissez-moi
non, mais
terminer
sincèrement,
ma phrase.
Laissez-moi mais
terminer
si vous la commencez de manière un peu
mais
sincère.
Laissez-moi terminer ma phrase et vous rebondirez. Rien n'a été fait pour rassurer les Français. On leur a dit tout et son contraire. Enfin, je viens de vous en donner l'exemple. En début d'épidémie, on leur a dit, mais les masques, c'est dangereux. Portez pas de masque.
D'accord.
Faut pas porter de masque. Madame Sibeth-Ndiaye
est dangereux, très sincèrement, Jordan Bardella. Essayons de respecter un peu ce qu'on dit, même vos adversaires.
Sibeth-Ndiaye. Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, nous ont dit faut pas porter de masque.
On va pas remonter
les masques. On nous a dit, non, mais je vais vous donner un autre exemple concret.
Je sais très bien.
Avant d'aller sur le vaccin, on va aller sur le traitement.
Ça devient brouillon. Ça devient brouillon et très sincèrement.
C'est pas brouillon, c'est très clair pour les Français. Je vais vous donner un autre exemple.
Jordan Bardella.
Si vous me permettez.
Non, mais juste pour que nous soyons tous d'accord, vous êtes là pour que nous vous écoutions, pour entendre vos propositions. Vous nous dites, voilà, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. On est là pour vous entendre et donc exposer votre diagnostic. Quand on vous interrompt, c'est pour vous demander de préciser, mais rien de plus. Donc sur la question des vaccins, répondez à Nathalie.
Alors, je veux bien préciser, mais pour ça, il faut que je puisse terminer ma phrase. Avant de parler du vaccin, je vais vous parler du traitement. On nous a dit, pareil, lorsque Monsieur Raoul, par exemple, moi, j'ai jamais eu la conviction qu'il y avait un traitement qui était plus efficace que l'autre. J'ai simplement, je suis pas scientifique, j'ai simplement observé. J'ai observé les faits, j'ai observé ce que disaient les scientifiques. On a vu qu'ils étaient extrêmement divisés. J'ai observé ce que faisaient d'autres pays. Certains ont utilisé la chloroquine. Lorsque Monsieur Raoult a présenté son protocole, on nous a dit, mais qui est ce charlatan? La chloroquine, ça marche pas. Le remdesivir, c'est un peu la solution miracle. Dont l'étude de The Lancet avait révélé l'efficacité soudaine. Tout le monde nous a dit le remdesivir c'est la solution miracle.
Mais
c'est la solution miracle.
Oh,
aujourd'hui l'OMS nous dit attention, il faut pas utiliser le remdesivir, c'est extrêmement dangereux, il y a des conséquences des conséquences collatérales qu'on ne connaît pas, il ne faut pas l'utiliser. Alors que l'Union européenne vient de faire une grosse commande.
Médecins. On ne peut pas. Nul d'entre nous ne l'est et nous vous interrogeons sur les vaccins, non pas sur le docteur Raoult et la chloroquine.
Mais donc merci de me conforter dans l'idée que les Français ont le droit de se poser des questions. Et donc c'est vrai que quand on nous dit il y a un vaccin qui va arriver, moi je suis plutôt favorable au vaccin.
Marine Le Pen a dit je me ferai vacciner. Mais je veux laisser les gens libres.
En quelques mois, est une avancée scientifique majeure et on doit s'en réjouir. Quand on voit qu'il a fallu près de 40 ans pour trouver un traitement au sida et qu'il ne faut que quelques mois pour trouver aujourd'hui un vaccin à coronavirus, très bien et je m'en réjouis. Mais on ne peut pas interdire les Français de se poser des questions. Donc évidemment que moi je suis favorable à ce que
et dans votre électorat,
une grande majorité de la population
adoptée.
Se fasse vacciner.
Pourquoi ?
Pas pour le vaccin obligatoire. Pas pour le vaccin obligatoire, mais pour qu'une grande partie de la population se fasse vacciner. Maintenant, est-ce que vous serez, vous, les premiers devant la porte à aller vous faire vacciner? Je ne sais pas, moi j'attendrai peut-être quelques semaines, quelques mois.
Juste une précision. Pourquoi,
il se trouve que je l'ai eu, j'ai des anticorps,
pourquoi
donc je peux me permettre d'avoir un petit peu plus.
Pourquoi dans votre électorat, il y a un plus grand doute?
Je ne sonde pas les cœurs et les reins. Enfin,
non, mais moi, si, elle a blaffé avec dans un sondage.
Je ne sonde pas les cœurs et les reins, je veux dire, dans une.
C'est parce qu'on a parlé
pas avec vos sympathisants et vos électeurs.
Mais bien sûr que je parle avec mes sympathisants, mais vous parlez aussi avec les Français. Vous voyez qu'il y a une majorité de Français qui souhaitent se faire vacciner, mais il y en a une autre qui ne souhaite pas se faire vacciner.
54%.
Il se trouve déjà que c'est une majorité de la population, c'est-à-dire 54% des Français se font vacciner compte tenu du fait que le virus est largement diffusé. On pourrait peut-être espérer atteindre les 60% dont on nous a dit qu'ils étaient nécessaires à l'immunité collective. Donc, partant de ce constat-là, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est vrai que les Français se posent beaucoup de questions. Eh bien, le gouvernement doit les rassurer. Mais encore une fois, quand on change d'avis toutes les semaines,
et vous
quand
leur
on leur
pas,
dit le matin une chose, on leur dit A et que le soir, on leur dit B, eh bien, comprenez-les qu'ils se posent des questions.
Mais les rassurer, c'est pas tant. La question, c'est comment on l'organise, en fait, cette campagne de vaccination? C'est-à-dire, comment on l'anticipe et comment, là, on la structure? Vous feriez quoi?
Je suis en train de regarder ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne a dit, nous allons organiser une campagne de vaccination massive. Entre 6 et 10 semaines, dans les 6 à 10 semaines qui viennent, nous allons mettre en place une soixantaine de lieux de stockage, puisque les vaccins qui ont été proposés sont des vaccins qui se stockent à moins 70 degrés, donc ils sont en train de mettre en place des stocks. On demande aux régions de mettre en place des campagnes de vaccination. L'armée sera réquisitionnée pour gérer la logistique. Voilà un pays qui gère correctement qui anticipe en tout cas, qui prévoit, qui anticipe une campagne de vaccination, ce que nous devrions d'ailleurs faire. Enfin, l'Allemagne n'a pas manqué de tests, l'Allemagne n'a pas manqué de masques en seconde partie d'épidémie parce qu'elle a anticipé. Or, nous devrions effectivement faire la même chose.
Donc, vous applaudissez Anne Hidalgo, par exemple, lorsqu'elle dit que dès le début de l'année 2021, il y aura suffisamment de vaccins pour pouvoir tester, protéger un tiers des Parisiens.
Pour l'instant, on n'en sait rien, mais elle a raison d'anticiper. Enfin, je veux dire, il faut se projeter. Je veux dire, la politique, c'est pas le matin, on décide comment est-ce qu'on va confiner le soir. Il faut anticiper. L'Union européenne a anticipé en disant, on va anticiper des commandes de vaccins dans les prochain mois, parce qu'il y a des résultats qui sont assez satisfaisants. Madame Hidalgo, la maire de Paris, le fait. Donc
il faut des grands centres de vaccination, par exemple, vous seriez favorable
bien
à ça ?
Bien sûr, pour faire en sorte que, d'abord, on donne une priorité, notamment dans l'accès au vaccin, pas qu'on rende obligatoire le vaccin, mais qu'on donne une priorité aux soignants et aux personnes âgées qui le souhaitent, parce que ce sont aujourd'hui les publics les plus exposés.
Et on les installe où, en fait, ces grands centres de vaccination ? On les met où ?
On a un pays de 68 millions d'habitants qui est assez vaste pour mettre en place des centres de vaccination. Ça, c'est le travail de l'administration de planifier cela. Je préférerais que l'administration planche là-dessus plutôt que de plancher sur un décret dont on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir acheter un sapin. Ça aussi, ça fait partie de la guignolade politique administrative du moment qui participe à rassurer les Français.
Mais ne mélangeons pas tout, Jordan Bardella.
Parce que si vous voulez, tout est affaire de cohérence.
Voilà. Ne mélangeons pas les vaccins et la vente des sapins de Noël.
Si, parce que la cohérence.
Si.
Ben oui, si, parce que la cohérence, c'est le pendant de la résilience. Et les Français, ils peuvent faire tous les efforts à condition que la parole publique, elle soit cohérente. Et quand on, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à M. Castex, quand le matin, un ministre nous dit il va falloir qu'on prenne un décret pour autoriser la vente de sapins, mais que les boules et les guirlandes seront achetables sur Internet, ben oui, pardon, ça participe pas d'une cohérence et d'une lisibilité dans la stratégie du gouvernement. Donc, souplesse, bon sens, anticipation, et de grâce, faisons confiance au peuple français.
Solène de Royer.
Alors, les catholiques, ces derniers jours, manifestaient aux portes des églises pour réclamer le retour de la messe. Est-ce que cette colère est compréhensible à vos yeux ou est-ce qu'elle est déplacée compte tenu des enjeux sanitaires ?
Elle est compréhensible. Enfin, encore une fois, que des catholiques souhaitent se réunir pour prier, c'est compréhensible. Que des jeunes, au terme d'une année extrêmement difficile, où ils ont été privés de tout, de manière assez... avec une résilience assez importante d'ailleurs, et envie de se réunir pour faire la fête, on peut le comprendre. Est-ce qu'on l'excuse quand il y a des soirées à 300-400 personnes, quand il y a des manifestations dans les rues, etc. ? Non, mais on peut évidemment le comprendre. Donc j'ai cru comprendre d'ailleurs dans ce que nous a dit Monsieur Castex avant-hier soir avec les chefs de parti, qu'ils travaillaient sur un protocole sanitaire qui soit un peu plus strict pour permettre justement aux cultes de travailler. Mais les cultes ont montré, je crois, dans la première partie de l'épidémie, qu'ils étaient capables, à l'issue du confinement, d'organiser des messes, d'organiser des cérémonies religieuses dans le respect des règles sanitaires. Et encore une fois, il n'est pas plus dangereux de se rendre à la messe que d'aller au bureau de poste ou que d'aller à la caisse du Super U, où là, évidemment, c'est bondé.
Donc il faut l'autoriser pour
les catholiques, je crois pas que ce soit...
Juifs, pour les musulmans.
Bien
on
sûr.
Ouvre les cultes et qu'on autorise les cérémonies religieuses.
Mais bien sûr, je pense pas que ce soit là que se diffuse l'épidémie. Encore une fois, il faut simplement être prudent et les cultes ont démontré qu'ils étaient prudents. Donc, il faut faire preuve, encore une fois, de souplesse et faire un peu confiance aux Français. Je veux dire, ils ont vécu une année qui a été difficile, une année où ils ont été privés des libertés, une année où ça fait quand même un an qu'on n'a pas serré nos parents et nos grands-parents dans nos bras. Donc oui, l'année est difficile pour les Français et il faut leur permettre de respirer un peu dans cette fin d'année. Et ça a été un peu le sens de notre déclaration quand on a dit il faut sauver Noël, il faut sauver l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est permettre aux commerçants qui font 30, 40, voire 50% de leur chiffre d'affaires sur novembre et décembre, de pouvoir travailler avec un respect des règles sanitaires, mais de pouvoir travailler, de permettre aux familles de se retrouver, de souffler un peu. Et encore une fois, faisons confiance aux Français.
Ils pourront faire la fête le premier de l'an ?
Il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Ben,
c'est quoi les règles de fête quand même ?
Moi, je suis favorable à ce qu'on lève le confinement et nous sommes favorables à lever le confinement pour les fêtes de fin d'année. Maintenant, il faut être prudent, voilà. Et si chacun s'expose, ça sera à ses risques et périls. Voilà, nous tenons cette doctrine encore une fois.
Mais vous avez été prudent
les vaccins.
Et vous êtes tombé
malade.
Le vaccin,
c'est le moyen de se protéger, mais si on ne se vaccine pas, c'est à ses risques et périls.
Vous vous êtes protégé, vous vous étiez prudent, et pourtant vous êtes tombé malade.
Ben oui, et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, et même à 25 ans, personne n'est à l'abri. On a souvent dit, ce sont essentiellement les personnes âgées qui sont touchées. Ce sont peut-être les personnes âgées, les personnes qui sont fragiles médicalement, qui sont touchées par la réanimation, par les conséquences dramatiques, mais personne n'est à l'abri, et il faut effectivement être capable de s'en prémunir et de s'en protéger.
Encore deux questions avant le portrait, Nathalie Sacré.
Est-ce que vous pensez, dans le cas où plus de personnes seraient testées, que quelqu'un qui sait qu'il est positif, et qui n'a envie quand même de sortir, doit être isolé, quitte à lui donner une amende, ou quitte à le punir, si je puis dire, s'il prend le risque d'exposer et de contaminer les autres.
L'isolement des malades que l'isolement de l'intégralité de la population.
Non, alors l'isolement. Voilà. Alors vous avez cité le modèle coréen, le modèle chinois tout à l'heure en disant ils ont fait mieux que nous, mais là-bas on leur a pas donné le choix. C'est-à-dire qu'en gros ils sortaient même pas pour acheter à manger, ils restaient. Autrement, ça se passait très très mal. Est-ce que vous pensez que sans arriver au régime chinois, il faut envisager de réprimer les personnes
qui... Vous savez, quand on est malade, quand on a 42 fièvres, qu'on a un peu de mal à respirer, qu'on
a
des courbatures
de
partout.
D'accord. Mais je parle pas de cela.
Franchement, moi, ça m'est arrivé. J'étais pas vraiment dans une ambiance à aller faire la fête, sur une plage dans le sud, quoi. Vous voyez, donc
Non, mais c'est pas ça. La question, c'est quand on est un petit peu.
Quand vous êtes malade, quand vous êtes au lit, il faut en revanche permettre. Je crois qu'il faut permettre, en revanche, à ceux qui ne peuvent pas s'isoler chez eux parce que les logements sont petits, parce que les logements sont exigus, parce qu'on est en famille, parce qu'on est avec des enfants qu'on risque de contaminer, de pouvoir effectivement aller à l'hôtel.
Les contraindre et les surveiller.
Mais je préfère convaincre que contraindre. On n'est pas obligé de commencer par l'isolement obligatoire. Mais encore une fois, quand vous êtes malade, le moindre des bons. Mais faisons confiance aux Français. La moindre des responsabilités.
Faites confiance
quand
aux gens qui se retrouvent à 500 à faire la fête, je ne sais où, et qui sont.
Généralement n'étaient pas malades. Mais évidemment que lorsque vous faites une fête à 400,
malade, on l'est pas.
Évidemment que vous devez être sanctionné parce qu'on peut pas demander des efforts. Aux Français, on peut pas demander des efforts aux commerçants et en même temps laisser effectivement des fêtes des grands rassemblements s'organiser. Mais tout ça est dérisoire. Je veux dire, il y a eu 1 cas, 2 cas, 3 cas. Tout ça est dérisoire. Oui. Donc, moi, je préfère convaincre que contraindre.
Vous avez vu le documentaire Hold Up?
Non, je ne l'ai pas vu.
Vous le verrez?
Je ne pense pas.
Pourquoi?
Parce que je pense pas le regarder, parce que je regarde d'autres choses, je lis d'autres livres en ce moment. Donc je ne l'ai pas vu.
Est-ce que vous comprenez le succès de ce documentaire qui dénonce une manipulation globale de l'économie par l'État, par les médias, par les
Non, moi je crois pas que le Covid ait été inventé par les Martiens ou par la CIA. Maintenant, si je prends un peu de recul sur le documentaire que j'ai pas vu, que les Français se posent des questions. Moi, je trouve ça sain pour la démocratie. Voilà. Et je serai toujours attaché à la liberté qu'ont les Français de se poser des questions, de s'interroger. Parce qu'encore une fois, quand on voit effectivement le traitement un peu partial de certaines informations, quand on voit effectivement des mensonges, je vais prendre un exemple très clair. Au mois de janvier, on a interdit l'hydroxychloroquine. Moi, je dis pas que le gouvernement l'a fait avec des intentions derrière de laboratoires pharmaceutiques, etc. Je dis juste que, les Français sont en droit d'attendre la vérité. Et que, en ne voulant pas dire la vérité, en racontant beaucoup de mensonges, eh bien, c'est vrai, ça prête le flanc à beaucoup de fake news.
Mais là, en l'occurrence,
et au fait que les gens s'interrogent
et se
posent des questions.
C'est dans le documentaire que se multiplient les fake news et les mensonges et même des propos carrément délirants. C'est ça qui est intéressant.
Oui, mais ça, je veux dire, c'est sain. Enfin, que les gens se posent des questions, c'est sain pour la démocratie. Vous êtes journaliste, ça arrive aussi parfois aux journalistes de dire des bêtises. Ça vous arrive de dire des choses fausses. Ça vous arrive de vous corriger. Ça vous arrive. Nous aussi, on dit. Ça nous arrive de dire des bêtises. L'essentiel est simplement de chercher la vérité. Voilà, on est le pays de la raison. Donc, il faut savoir raison garder sur un certain nombre de choses.
Le pays de Pasteur, mais on ne se vaccine pas obligatoirement. Le pays de Descartes, et malgré tout, on ne dit pas à ceux qui croient, par exemple, à des propos délirants qu'ils se trompent.
Mais oui, mais les responsables politiques ont une responsabilité. De la manière, quand vous voyez qu'il n'y a qu'un Français sur deux qui fait confiance aux médias, les médias ont aussi peut-être leur part de responsabilité.
Oui, mais s'il y a des fake news dans ce documentaire, il faut effectivement y répondre. Et la place des responsables politiques, c'est peut-être ça, non?
Mais j'ai pas le sentiment, si vous voulez, d'alimenter des fake news. J'ai pas le sentiment de d'asséner des contre-vérités. On a parfois des divergences d'opinion, mais en tout cas que des Français s'interrogent dans une démocratie. Enfin, moi, George Orwell et Big Brother, c'est pas mon modèle. La police de la pensée, c'est pas mon modèle. Or, je vois que les libertés aujourd'hui dans notre pays, elles sont en train de reculer, et que les différentes lois qui sont prises par Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous en avez fait les frais il y a quelques jours lorsque le ministre Darmanin nous explique que les journalistes vont devoir s'accréditer pour suivre des manifestations. Lorsqu'on voit les lois Avia qui place la liberté d'expression, et notamment sur Internet, sous la coupe des GAFA et de puissances privées, eh bien oui, je crois que ce gouvernement n'a jamais fait autant en matière de restriction de liberté qu'ont fait les gouvernements qui l'ont précédé.
Merci pour la transition. Le député européen Rassemblement National, Jordan Bardella, est notre invité ce dimanche.
Question politique sur France Inter.
Votre portrait, Jordan Bardella, il est signé Karine Bécard.
Vous avez été une sorte de révélation. Le mot est un peu fort, mais vous savez que vous avez bluffé tout le monde. Lors du dernier scrutin européen, à 23 ans, vous avez été bombardé tête de liste du Rassemblement National. Vous avez gagné. Vous êtes arrivé devant la candidate du président Macron. Difficile de ne pas imaginer qu'il n'y a pas maintenant, derrière tout cela, un chouïa d'ambition. Parce que, comme d'autres au Front National, À l'époque, c'était encore le Front National. Vous vous êtes encarté, Jordan Bardella, à seulement 16 ans. Et vous êtes devenu un très loyal militant, très discipliné, très appliqué, très présent. Résultat, vous vous faites repérer, on ne peut plus facilement. Bref, vous êtes propulsé patron de la Fédération du FN en Seine-Saint-Denis, là où vous avez grandi. À ce moment-là, vous n'aviez encore même pas 19 ans. Et évidemment, ce n'est pas tout. À 22 ans, vous postulez et vous obtenez la direction du mouvement des jeunes, Génération Nation, c'est son nouveau nom, après avoir été élu à tout juste 20 ans conseiller régional. Reconnaissez qu'en si peu de temps, Jordan Bardella, cela fait déjà beaucoup.
Nous avons tourné la page de cette banlieue asphyxiée par des années de gestion PS et communiste, rongée par une immigration massive, non assimilée, terreau du communautarisme, du clientélisme, de l'insécurité et de l'islamisme radical.
6 novembre 2015, vous êtes en pleine campagne des régionales en Ile-de-France. Communautarisme, clientélisme, islamisme, ce sont tous les fondamentaux de votre parti. En une seule phrase, en 14 secondes, vous avez tout dit. En tout cas, c'est à partir de là, Jordan Bardella, que vous décidez de cesser vos études de géographie et vous vous lancez définitivement, professionnellement, dans la vie politique. Je le redis, vous avez seulement 20 ans. Ce qui ne vous empêche pas d'être plutôt impressionnant, jamais de position personnelle. Vous êtes toujours sur la même ligne que Marine Le Pen. Vos arguments sont affûtés et dégainés. Qu'ils soient justes ou faux, ce n'est pas votre problème. C'est rapide, c'est fluide. Et surtout jamais, non vraiment jamais, vous ne manquez de sourire.
On a choisi, je vous dis, d'aller dans ces petites et moyennes communes. Là où, c'est vrai, les responsables politiques ne vont plus forcément. Donc on a choisi de venir, de parler politique et de rencontrer nos sympathisants et nos électeurs.
Aujourd'hui, Jordan Bardella, vous avez 25 ans. Vous êtes député européen et vice-président de votre parti. Vous passez beaucoup de temps dans les médias, sans pour autant négliger vos militants. Un peu comme si, méthodiquement, vous cherchiez à conforter votre nouvelle notoriété et à développer, au sein du Rassemblement National, votre cote de popularité. Mais accepte-t-on sincèrement de travailler, de s'investir, de s'exposer autant, si ce n'est pas pour espérer ou se préparer à jouer tôt ou tard un rôle de premier plan?
Réaction, Jordan Bardella?
Bon, déjà, je suis heureux de revoir des images qui me paraissent une éternité, mais écoutez, moi, je me suis engagé à 16 ans. Je me suis engagé très très tôt au Front National à l'époque, parce que c'est vrai que l'environnement dans lequel j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis, fait que quand vous grandissez ici, vous vous posez beaucoup de questions sur la sécurité, sur le salaire qu'a votre maman, etc., etc. Et donc, je me suis engagé très très tôt en politique. Maintenant, je me suis engagé d'ailleurs plus pour une candidate, puisque je me suis engagé pendant la présidentielle de 2012, qui est Marine Le Pen, que pour le mouvement politique en soi, qui n'est qu'un outil qui permet à un candidat d'arriver aux responsabilités. Et en tout cas, oui, je ferai en sorte que nous arrivions aux responsabilités, parce que je vois que les problèmes que moi j'ai connus en Seine-Saint-Denis deviennent les problèmes de la France à la puissance 10. Et donc, mon ambition est que nous arrivions aux responsabilités en 2022.
À part Marine Le Pen, vous avez d'autres références politiques ? Il y a d'autres gens, il y a d'autres figures qui vous ont nourri.
Ah, il faut remonter peut-être un peu plus haut. Je suis en train de lire les mémoires du général de Gaulle.
Vous êtes gaulliste vous aussi alors?
Je sais pas que je suis gaulliste, c'est que les grands principes qu'ont toujours défendu le général de Gaulle sont aujourd'hui les grands principes que nous défendons, la souveraineté, l'indépendance. La grandeur, il commence ses mémoires en disant « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Et c'est peut-être cette notion de la grandeur qu'ont abandonné aujourd'hui nos responsables politiques. Et c'est vrai qu'en temps de crise, d'ailleurs...
C'est une référence évidente.
Qu'en temps de crise, d'ailleurs, cette notion de crise qu'il développe assez bien dans le fil de l'épée, il dit que les deux caractéristiques majeures que doit avoir un chef pour répondre à une crise et pour remporter un combat sont l'instinct et l'autorité. Et je crois que c'est ces deux qualificatifs qui manquent aujourd'hui à Emmanuel Macron.
Solène de Royer.
Non, juste une petite question politique. Les Français n'aiment pas Marine Le Pen. Selon un sondage IFOP, 60% des Français jugent que la présidente du RN est inquiétante. Est-ce qu'elle est la bonne candidate pour 2022?
C'est marrant parce qu'ils l'ont mis au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Ils la remettent encore dans les sondages au second tour de l'élection présidentielle.
Elle essaie de changer son image.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens, il faut être honnête d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne nous aiment pas par conviction et qui ont peur de nous et ont peur de bonne foi. Voilà. Il y a vraiment des gens qui, dans notre pays, de moins en moins, mais qui pensent que si le Rassemblement National arrive au pouvoir, nous remettrons en cause les libertés, nous prendrons à partie telle ou telle partie de la population. Tout cela sont des anathèmes que nous militants, nous subissons un petit peu, et nos électeurs d'ailleurs, comme une injustice. Mais beaucoup des gens qui ont peur de nous ont peur de bonne foi, et ont surtout peur parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et en réalité, beaucoup de Français partagent nos grandes idées. On parlait du communautarisme. Regardez, toutes les grandes idées, il y a 89% des Français qui sont favorables à l'expulsion des fichiers S étrangers. Il y a 89% des Français qui sont favorables à la déchéance de nationalité pour les islamistes.
Et il y a
une grande majorité des Français qui souhaitent le référendum d'initiative populaire, qui souhaitent la proportionnelle aux élections.
Et il y a la constitution de la Ve République et l'état de droit, Jordan Bardella.
Et sur toutes ces grandes idées, je pense que nous avons gagné une bataille idéologique. Maintenant, c'est vrai, beaucoup de Français ne nous voient pas encore comme les avocats de ces idées-là. Et c'est ce que nous avons, c'est ce travail que nous avons encore à faire d'ici la présidentielle. D'ailleurs, je note que dans les mairies que nous gérons, nous avons été réélus au mois de mars dernier, dès le premier tour. Parce que lorsque nous sommes aux responsabilités, ça fonctionne. Nous baissons les impôts et nous ramenons la sécurité.
Pour poursuivre la question de Solène, c'est pas simplement que les gens ne vous comprennent pas ou ont peur de vous. Quand on voit quelqu'un comme Robert Ménard qui, en septembre, a dit,
qui n'est pas au Rassemblement National.
Non, d'accord, mais enfin, il n'est pas excessivement éloigné quand même.
Il a été élu en 2014 avec le soutien du Rassemblement National, mais il n'en est pas membre.
Très bien. Quand il dit, je pense aujourd'hui que Marine Le Pen n'est pas en mesure de gagner, quand on voit un certain nombre de propos de Marion Maréchal, quand on voit par exemple que quand on propose, on parle de Pierre de Villiers aux Français, les sondages IFOP, il y en a 20% qui disent qu'ils seraient prêts à voter pour lui. Est-ce que finalement, Marine Le Pen n'est pas un obstacle à votre triomphe?
Écoutez, moi, je veux bien que...
Jordan Bardella.
Que certains, au sein de notre famille politique au sens large, en dépassant le Rassemblement National, dans notre famille de pensée, des gens qui pensent comme nous, il y a des personnalités qui ont envie de se présenter à la place de Marine Le Pen. Mais à ce moment-là, faut le dire. Faut pas, si vous voulez, vouloir les bons côtés et pas les mauvais. C'est-à-dire, il faut pas le bon côté du jeu médiatique où vous êtes invité parce que vous dites du mal de Marine Le Pen et donc ça permet de faire exister peut-être une voix à côté de Marine Le Pen, mais sans en avoir les inconvénients de se prendre des coups et d'être en première ligne. Ça fait, par exemple, Robert Ménard. Robert Ménard, probablement, il a envie d'être candidat à la présidentielle. Mais à ce moment-là, faut le dire. Il y a pas de problème. Je veux dire, nous, on accepte l'idée qu'il y ait des voix dissonantes autour de nous, qu'il y ait des gens qui viennent composer autour de nous. Mais il y a qu'une réalité, c'est qu'après la dernière élection présidentielle, tout le monde nous a dit c'est mort. Voilà, le Rassemblement National, c'est terminé. Nous avons gagné les élections européennes. Un an avant les élections européennes, on était à 14, on a gagné les élections européennes avec 23% des voix. Que partout dans les municipalités que nous gérons, nous avons été réélus parce que notre bilan, il est bon, il est même très bon, et que les Français aujourd'hui, dans tous les sondages qui sont faits, nous placent au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Donc nous incarnons aujourd'hui le grand camp du souverainisme, le grand camp de tous ceux qui veulent défendre la France, défendre la nation française, qui n'en peuvent plus de cette classe politique qui se succède depuis des années, qui défend des transferts de souveraineté toujours plus importants vers la Commission européenne, qui défend la suppression des frontières, qui continue de défendre l'immigration massive, qui continue de défendre une fiscalité qui est de plus en plus assommante pour les TPE-PME, pour les commerçants, pour les indépendants, pour les artisans. Ce courant notre projet, c'est de reprendre le volant et de le redonner au peuple français. Voilà, c'est de permettre aux Français de reprendre le pouvoir sur toutes ces idées qui sont majoritaires au cas par cas.
Comme disaient les Brexiteurs
britanniques.
Mais à qui
exactement, reprendre le pouvoir.
Mais c'est exactement ce que dit également Robert Ménard, pour le coup. Et Robert Ménard, ce serait donc assez...
Donc il est d'accord avec nous. Mais je veux dire, on partage l'essentiel. Si des gens veulent prendre la responsabilité de diviser le camp souverainiste, de diviser le camp patriote, et de faire réélire Emmanuel Macron, ça sera de leur responsabilité. Mais je leur dis, nous sommes donnés très largement en tête. Marine Le Pen est donnée entre 25 et 30% dès le premier tour. C'est elle qui rassemble aujourd'hui des gens qui viennent de la droite, comme Thierry Mariani, comme Jean-Paul Garraud, des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent d'autres horizons politiques. Je leur dis, mettons-nous autour de la table, nous devons faire gagner le camp des nationaux, le camp des patriotes, et pour cela, évidemment, la candidate légitime, c'est Marine Le Pen. Ça fait 20 ans qu'elle est en première ligne.
Qui
et quand j'entends des déclarations de 2012 de Marine Le Pen qui nous dit combien de Mohamed Merah dans les bateaux d'immigrés qui arrivent chaque jour, l'islam radical est en train de monter sous les yeux grands fermés de toute la classe politique. Nous avions tout dit avant tout le monde. Nous avions eu raison avant tout le monde. C'est peut-être ça qu'on lui reproche, d'avoir eu raison avant tous les autres.
Laissons-nous malgré tout circuler la parole et échangeons. Jordan Bardella, c'est vrai que vous avez tendance à frère de
mais votre émission est longue et de qualité, alors j'en profite pour développer des arguments qu'on n'a peut-être pas le temps de développer ailleurs.
Merci, nous sommes sensibles à la flatterie et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous entendre. Solène de Royer, et on va faire la transition avec la question du séparatisme.
Marine Le Pen doit-elle quitter...
Et vraiment, on va avancer parce qu'il nous reste malheureusement plus qu'un quart d'heure et beaucoup de questions encore à vous poser, Jordan Bardella.
Marine Le Pen doit-elle quitter la présidence du FN pour se lancer dans la course présidentielle?
C'est moi qui relis les mémoires du général de Gaulle. De Gaulle disait, ce n'est pas la gauche, la France, ce n'est pas la droite, la France. Et il a toujours dit que le président de la Ve République devait évidemment être au-dessus des partis. Quand on concourt à l'élection présidentielle, on est le candidat de tous les Français. On n'est plus le candidat d'un mouvement politique, on n'est plus le candidat d'un clan. On se doit de dépasser les clivages. Et c'est vrai que beaucoup de Français qui peut-être sont un peu réticents aujourd'hui au Rassemblement National, mais qui se trouvent séduits par le discours et les propositions de Marine Le Pen, effectivement peuvent nous rejoindre dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc elle l'a dit, elle réfléchit à quitter la présidence du mouvement. Elle l'a fait lors de la dernière élection présidentielle. Et moi je crois effectivement oui que lorsque évidemment vous êtes candidat à la présidentielle, eh bien vous dépassez largement le cadre de votre parti. Vous n'êtes plus la candidate d'une famille politique, mais de tous les Français.
Nathalie, il y a un texte de loi qui a été passé au Conseil des ministres et qui devrait être débattu au Parlement l'année prochaine. Projet de loi confortant les principes républicains, donc ça s'appelait loi séparatiste, laïcité.
Vous ne savez plus comment ça s'appelle.
Bon, peu importe, il y a un certain nombre de choses dedans qui sont quand même saluées par une bonne partie de la droite comme étant des choses efficaces. Est-ce que pour une fois, vous pourriez dire qu'ils se sont bien débrouillés sur ce sujet?
Non, pardon, il y a un certain nombre de bonnes... Non, mais il y a un certain nombre de...
Non, mais en même temps, on peut faire les réponses à votre place.
Non, mais il y a des... Non, mais alors, j'aimerais vous dire oui.
Non, mais...
Il y a des éléments, comme dans le projet de loi sécurité, on en parlera peut-être après, qui vont dans le bon sens. Chaque chose en son temps, mais il y a des projets, il y a des éléments, il y a des amendements, il y a des textes de loi qui vont dans le bon sens au sein du projet de loi global que nous voterons et qui vont dans le bon sens. Maintenant, l'essence même de ce projet de loi, c'est de confier aux islamistes la charge de lutter contre l'islam radical. Hein? Moi, j'ai été regarder les composantes du Conseil national des imams.
C'est pas la même chose, le Conseil national des imams.
Ben, ça participe du projet de loi.
Ça participe, soyons précis. Il y a un texte de loi.
À qui on souhaite confier la charge de former, de labelliser les imams. Je ne sais pas si vous avez été regardé, moi j'ai regardé qui sont les membres de ce Conseil national des imams. Vous avez le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Dont le délégué général expliquait il y a quelques mois à propos de la jeune Mila, qui est une adolescente, qui s'était moquée de l'islam sur les réseaux sociaux, qui a reçu, d'après son avocat, M. Malka, 50 000 messages de menaces de mort. Le délégué général du CFCM nous a dit elle l'a bien cherché. Dont le secrétaire général du CFCM est membre des Miligorus, qui est une association d'influence turque, qui est l'outil d'influence culturelle de la Turquie. Miligorus, qui est considéré au sein de l'Union européenne, qui est considéré en Allemagne comme un mouvement d'islamisme radical. Nous avons le mouvement au sein du CNI Foi et Pratique, qui est le mouvement du Tablir, dont le dirigeant, Monsieur Amami, qui est un Tunisien, a été expulsé en 2012 du territoire français pour extrémisme. Il y a aussi Musulmans de France, qui est le nouveau nom de l'UOIF.
À la question sur le projet de loi séparatisme.
Dissolution des associations.
Parce que le projet de loi...
Justement, il est question de dissoudre des associations.
Il
est
question...
Ah bon? De dissoudre le CFCM, de dissoudre Foi et Pratique dont le dirigeant a été expulsé.
Du coup, qui doit les former?
L'UOIF, qui est la branche française des frères musulmans, qui est une organisation, je vais vous répondre, considérée comme organisation terroriste dans un certain nombre de pays arabes. C'est à eux qu'on souhaite confier la labellisation des imams en France. Bah, franchement, je trouve ça inquiétant.
Donc, qui doit les former? Les imams?
Mais en tout cas, pas à la République, qui est une loi de laïcité qui prévoit la séparation, pas des organisations radicales.
Si vous aviez à écrire cette loi, vous proposeriez qui?
Que d'abord, on impose que les prêches soient tenus en français. Voilà, déjà, très clairement.
Ça ne forme pas ça.
Lorsque l'on est étranger, lorsque l'on vient de l'étranger, la moitié des imams étrangers dans notre pays sont des imams de la Turquie. On connaît l'agressivité aujourd'hui et le caractère belliqueux de M. Erdogan à l'égard de la France et de l'Union européenne ne devrait pas pouvoir exercer dans les mosquées.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous proposez? Qui doit les former?
Mais c'est pas au chef de l'État de monter des écoles pour former les imams, enfin. Bon, je veux dire, il y a des mosquées radicales. Dans ce projet de loi, il y a des mosquées radicales, sont-elles fermées? Il y a 570 mosquées radicales en France, elles ne sont pas fermées.
Pourquoi ce que prévoit le projet de loi, mais...
Ah bon? Mais attendez, ça fait 5 ans! Ça fait 5 ans qu'il y a des attaques terroristes. Y en a tous les trimestres, qu'il y en a tous les ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour fermer les mosquées radicales? Il y en a 570, on en a fermé à peine une dizaine. Il s'agit quoi? Vous me parlez de dissolution d'associations, de dissoudre quoi? De dissoudre le CFCM? C'est tout? On s'arrête là avec les dizaines d'associations qu'il y a derrière. Combien d'islamistes, de gens qui sont étrangers dans notre pays,
on l'a pas
qui
fait
sont suivis
avant. Suffisamment tôt qu'il faut condamner ce qui risque d'être possible après.
Mais
que
madame,
ce soit Baraka Sissi ou l'association
Yassine. Il y a quelques jours, il y a eu en Autriche une attaque terroriste. En cinq jours, la riposte autrichienne du chancelier autrichien M. Kurz a été plus efficace et plus radicale que ne l'a fait la France en 5 ans à l'égard de l'islam radical dans notre pays, par un certain nombre de mesures extrêmement strictes et notamment la création du délit d'islam politique. Et puis il y a le problème de l'immigration. Moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est que ce projet de loi, il ne pose pas le problème de l'immigration. L'islam politique, ça ne pousse pas dans les campagnes, ça ne pousse pas dans les prairies normandes. Or, les gens qui ont attaqué notre pays ces dernières années avaient tous un lien avec la politique migratoire. Le terroriste de Nice, de Nice était un Tunisien qui était passé par Lampedusa. L'Afghan qui a été interpellé dans le tramway à Lyon avec une machette à la main était suivi pour radicalisation. Il est Afghan, suivi pour radicalisation. Et malgré tout ce qu'on a connu, ces gens-là ne sont toujours pas expulsés de notre sol. À Paris, le Pakistanais qui a attaqué les locaux de vos confrères de Charlie Hebdo, les anciens locaux de vos confrères de Charlie Hebdo, était un mineur étranger dont le conseil départemental du Val-d'Oise indique qu'il n'était pas mineur, c'était un faux mineur. Que faisait-il sur le territoire français? Donc il faut un moratoire sur l'immigration. Il faut couper toutes les pompes aspirantes qui font que des gens viennent aujourd'hui par bateau avec un esprit conquérant, iPhone à la main, en prenant des selfies, en les postant sur les réseaux sociaux avec des couteaux à la main, comme on a pu le voir dans les bateaux de Lampedusa, et remettre de l'ordre.
Échangeons, Jordan Bardella. Lorsque vous regardez justement ces familles qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée, vous voyez des gens qui arrivent en conquérant avec des iPhones.
Vous voyez des familles, parce que moi je vois des bateaux. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Non, mais je vais répondre à votre question parce que vous me reprochez de pas échanger, mais vous me permettez pas de vous répondre. Moi, je vois sur les réseaux sociaux tous les jours. On l'a vu à Lampedusa pendant des années. On le voit aujourd'hui aux Canaries, qui est en train de devenir le nouveau Lesbos, la nouvelle île de Lesbos en Grèce. Ils sont complètement submergés par l'arrivée de migrants. On voit des bateaux de migrants arriver avec des gens qui ne fuient pas la guerre, qui sont des migrants économiques, qui viennent de pays, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, qui ne sont pas des pays en guerre, qui se filment avec des couteaux à la main en hurlant Allah Akbar, qui arrivent sur les plages très contents.
Jordan Bardella.
Oui.
Il y a aussi des femmes, des enfants, des hommes qui viennent.
Vous connaissez le pourcentage de femmes parmi les migrants qui arrivent?
Vous voulez que nous échangions juste un mot, puisque on ne peut pas
90% d'hommes.
Et on ne peut pas tout discuter avec vous. Par exemple, lorsque vous parlez de la dissolution du CFCM, il n'est pas question de dissoudre le CFCM, mais le CCIF. Ça n'a absolument
rien à
voir. Le
CCIF, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Je parlais du CCIF.
Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on aurait pu vous reprendre, et donc nous vous écoutons depuis le début de cette émission. Malgré tout, vous pouvez avoir une perception de la réalité qui n'est pas la nôtre ou qui n'est tout simplement pas conforme aux faits.
Non mais alors parlons des faits. Vous me dites, il y a des femmes qui arrivent, le pourcentage d'hommes parmi les migrants c'est 90%. Le chiffre vient pas de moi, vient d'Emmanuel Macron, dont je pense qu'il a a priori très bien informé pour nous donner les chiffres alors, des migrants qui arrivent.
Pour qu'on avance. Emmanuel Macron d'ailleurs a dit que...
Mais précisez quand même qu'il s'agit d'immigration clandestine. Mais je
laisse parler Nathalie. La parole circuler dans l'ordre. Nathalie,
vous avez raison.
Alors... Quand Emmanuel Macron explique aux anglo-saxons et notamment à la presse américaine, je fais allusion notamment au New York Times, eh bien que notre version de la laïcité, c'est pas simplement qu'on est des islamophobes, contrairement à ce qu'ils disent, est-ce que vous êtes cette fois-ci à ses côtés?
Oui.
Je passe pas mon temps à essayer de trouver des points communs entre vous et lui.
Non, mais vous avez raison. Et de la même manière que lorsqu'il est attaqué dans un certain nombre de pays arabes, qui remettent en cause nos valeurs, dont j'ai vu que un des ministres pakistanais traitait Emmanuel Macron de nazi. Évidemment que nous sommes à ses côtés parce que il n'est pas seulement Emmanuel Macron, il est le chef de l'État et que lorsqu'évidemment c'est le chef de l'État et le président de la République qui est visé, c'est évidemment la France qui est attaquée. La réalité, c'est que les radicaux aujourd'hui, ils ont gagné en France. Voilà, ils ont gagné parce qu'ils nous ont imposé aujourd'hui un retour en arrière spectaculaire en matière de la liberté d'expression. Oui, la France a le droit de caricaturer. Oui, des journalistes ont le droit de blasphémer. Oui, des Français ont le droit de critiquer l'islam,
ont le droit de critiquer
la religion musulmane. Ils le font. D'accord. Et lorsqu'ils le font, ils sont menacés de mort quand ils ne sont pas décapités, comme ça a été le cas de Samuel Paty et dont on a vu d'ailleurs par l'intermédiaire de vos confrères du Point qu'il a été totalement lâché par la hiérarchie. La hiérarchie savait. Or il y a aujourd'hui dans l'éducation nationale un grand principe qui consiste à fermer les yeux,
les
yeux systématiquement. Et heureusement d'ailleurs, on a vu ses collègues le soutenir sur les réseaux sociaux,
mais il a été
lâché par l'académie.
Alors, Ségolène Royal, justement, a jugé que certaines caricatures de Mahomet étaient insultantes. En tout cas, elle comprend que les musulmans se sentent insultés. Qu'est-ce que vous inspirez?
Oui, Ségolène Royal, c'est à plat ventre. C'est à plat ventre. Non, mais c'est à plat ventre, c'est-à-dire c'est...
Explication de texte?
J'arrive, mais permettez-moi de finir une phrase.
Mais vous employez des images.
Je veux bien vous expliquer, mais sinon, moi, je vais à la machine à café, on se retrouve après l'émission, mais permettez-moi de finir une phrase. Madame Royal est l'incarnation de la soumission dogmatique d'une grande partie de la gauche aujourd'hui qui a renoncé à être ce qu'elle était. C'est-à-dire une gauche républicaine, laïque, intransigeante. Elle me fait penser à tous ces gens qui ont lâché Charlie. Voilà. Tous ces gens qui ont lâché Mila, qui étaient Charlie en 2015 au moment des attentats et qui ont lâché la petite Mila. Elle l'avait dit d'ailleurs, hein. Elle l'avait dit que Mila commettait une erreur en blasphémant la religion. Voilà l'exemple de gens qui sont les complices pour moi objectifs de la progression du fondamentalisme.
Vous dites Charlie?
Bien sûr, mais comme je me dis Mila. comme je me dis tous
non,
ceux
Jordan
qui...
Non, Jordan Bardella, ce que vous dites, je suis Charlie.
Mais bien sûr, je suis Charlie. Mais je suis Charlie hier, ça veut dire je suis Mila aujourd'hui. Ça veut dire je suis Zineb El-Razoui aujourd'hui. Ça veut dire je suis tous ces gens qui, au quotidien, reçoivent des milliers et des milliers de messages, de menaces de mort parce qu'ils critiquent une religion. On parlait du CFCM, mais d'ailleurs le président du CFCM, Monsieur Moussaoui, lui-même a dit si on veut la fraternité en France...
On parlait du CFCM ou du CCIF ?
Du CFCM. Monsieur Moussaoui, il a dit si on veut la fraternité en France, il faut renoncer à certains droits. Eh bien moi, je ne renoncerai pas aux droits, je ne renoncerai pas à la France, pays de Voltaire, pays de la satire, pays des Lumières, où l'on a le droit de critiquer, où l'on a le droit de blasphémer n'importe quelle religion.
Alors aucun parti politique ne le propose.
Ah bon ?
Aucun.
Ah bon ? Quand Madame Belloubet nous dit que critiquer la religion est une atteinte à la liberté de conscience, vous pensez pas que derrière il y a un inconscient ?
Madame Belloubet est à la tête de quel parti ?
Elle a été ministre de la Justice, monsieur. Oui. Non mais je veux dire, vous pouvez être naïf. Être naïf sur le moindre de mes arguments. Ce sont des faits. Voilà, Madame Belloubet qui a été ministre de la Justice, garde des sceaux. C'est-à-dire que garante aussi de nos principes et garante des principes de la République.
4 minutes, Jordan Bardella.
Qui nous dit que critiquer une religion est une atteinte à la liberté de conscience, c'est extrêmement grave. Et oui, quand Emmanuel Macron est attaqué sur ces sujets, je le soutiens.
Dame Karine, puis Nathalie Sacré.
Alors voilà, 4 minutes seulement, donc je voudrais quand même qu'on parle de la proposition de loi de sécurité globale dont il a été beaucoup question aujourd'hui, cette semaine dans l'hémicycle et qui a fait beaucoup couler d'encre. Elle prévoit, cette proposition de loi, un renforcement des polices municipales, le recours et l'exploitation par la police d'images prises par les caméras piétons et par des drones, sans oublier la reconnaissance faciale. Est-ce que le modèle de société français, pour vous, doit devenir le modèle chinois ?
Non, pas du tout. Nous sommes extrêmement réticents à un certain nombre... Alors, il y a beaucoup d'articles, je le disais tout à l'heure, qui vont dans le bon sens, notamment le renforcement des moyens qui sont donnés à la police municipale, dont nous considérons, nous, et c'est dommage que le gouvernement ait renoncé là-dessus, qu'un policier municipal doit être armé. Mais voilà, à partir du moment où il est sur la voie publique avec un uniforme, il doit être armé, parce qu'en face, les délinquants, les terroristes ne font pas la différence, que ce soit un policier municipal ou un policier national. Maintenant, nous avons voté contre un certain nombre de principes dont nous considérons qu'ils sont liberticides, qui remettent en cause un certain nombre de libertés individuelles, notamment les surveillances par drone, qui remettent en cause les libertés individuelles aujourd'hui dans le pays. Nous avons voté contre. En revanche, il y a des articles qui vont dans le bon sens, nous les avons soutenus, mais d'une manière générale, ce projet de loi, il est largement insuffisant. Voilà, il est largement insuffisant. Il y a 20 policiers qui sont blessés chaque jour en exercice dans le cadre de leur fonction. Il y a eu 59 suicides de policiers l'an dernier, il y en a eu 31 cette année, 63 commissariats qui sont attaqués, et aujourd'hui dans les quartiers, les policiers ne sont plus vus comme les représentants de l'ordre, mais comme une bande rivale, et cette bande rivale, c'est la France. Donc il est évidemment insuffisant et il faut faire beaucoup d'efforts, notamment un tour de vis en matière de justice pénale.
L'émission se termine, Jordan Bardella. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle aux États-Unis ?
Le président sortant la conteste, donc je suis prudent et j'attends en tout cas que tous les États... excusez-moi, mais dans un certain nombre d'États, il y a encore des opérations de recomptage qui sont en cours. Donc j'attends que les États donnent officiellement leurs résultats. Voilà, donc j'attends effectivement...
Il a perdu 25 des 33 recours qu'il a engagés.
Je ne suis pas américain, mais je suis respectueux de la Constitution américaine qui dit que tant que les résultats dans l'ensemble des États ne sont pas proclamés, le président n'est pas reconnu, tout simplement.
Jordan Bardella, est-ce que vous voudriez que la France, comme la Pologne, comme la Hongrie, mettent son veto au plan de relance européen et n'acceptent pas les fonds mis à disposition par la BCE et la Commission.
Non, ce que je souhaiterais, c'est que la France ne se soumette pas aux revendications de contrepartie qui sont celles de la Commission européenne, dont la première est d'aller au bout de la réforme des retraites. Ça a été revendiqué et assumé par M. Borne.
Vous répondez pas à ma question. Vous avez soutenu l'attitude de la Pologne et de la Hongrie, faudrait-il que la France fasse la même chose ?
Donc je vous réponds, non. En revanche, il faudrait que la France ne se soumette pas à un certain nombre de revendications qui s'opposaient en contrepartie de cet argent. Beaucoup pensent que cet argent qui nous est prêté par l'Union européenne est donné pour nos beaux yeux. Non, il y a des contreparties. Et les contreparties, c'est évidemment d'aller au bout sur un certain nombre de réformes qui sont extrêmement dures pour le modèle social français, dont la réforme des retraites. Et je vous rappelle d'ailleurs que la Commission européenne a sermonné la France parce que la France a eu, il faut au moins leur reconnaître ça, a pris la mesure d'augmenter les salaires de ses infirmiers. C'est pas dans l'idéologie européenne qui est de se soumettre systématiquement à l'austérité budgétaire.
Question politique se termine.
Merci à
Jordan
vous.
Bardella, j'espère que vous avez eu le sentiment de pouvoir vous
tout
exprimer.
Tout à fait, je vous remercie de votre invitation.
Et donc, merci à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe de Question Paul. Et on vous redonne rendez-vous dimanche prochain.